La parole de Dieu se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est serviable. Il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne se s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas dans l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles cesseront, la connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs d'une manière confuse. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Prions pour que nous puissions recevoir la parole de vie précieuse. Par le Saint-Esprit, prions aussi pour les vertonneurs lorsqu'ils prêchent la parole pour que tu lui donnes la sagesse, la connaissance et la puissance de la parole. Prions pour cela. Dieu le Père, tu as versé ton sang à notre faveur. Et tu nous as donné ta grâce et tu nous as accordé ton amour. Alors tu nous as appelés aujourd'hui par le Saint-Esprit. Merci de cette grâce. Que tous les âmes blessées soient consolées et guéries. Et écoute bien ta parole, que leur cœur et leurs âmes soient en paix, ou en élève ton serviteur, donne-lui la sagesse, la connaissance et la puissance de la parole. Je prie au nom de Jésus. L'amour est la plus grande. Lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui à partir du titre. L'amour est la plus grande. Dieu est amour par amour pour le monde. Il envoya son Fils unique. Jésus aima le monde comme il aime le Père et mourut sur la croix en versant son sang. L'amour est parfait et doux. Il n'est pas envieux. Il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas dans l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espoir, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. La plus grande, c'est l'amour. La plus grande, c'est l'amour. Nous sommes tous les hommes du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit est l'amour. Aimons-nous les uns les autres. Nous sommes tous les hommes. Nous sommes tous les hommes du sang de Jésus. Aimons donc vraiment l'Église, le corps de Jésus. Nous sommes tous les hommes de Dieu. Que celui qui est de Dieu aime Dieu jusqu'à la mort.
Nous
Dieu est l'amour. 1 Jean chapitre 4, verset 8, il est dit que Dieu est amour. Mais cela ne signifie pas que l'amour est Dieu. Cela ne signifie pas que la philosophie, c'est Dieu. Ils veulent se révéler parfaitement, complètement. C'est ça son amour, sa parole, ses commandements, sa justice et sa création et sa puissance se constituent amour. Dans cet amour, il n'y a pas de relation d'intérêt. Il n'y a que la révélation parfaite dans cet amour. Alors, c'est ainsi que Dieu s'est révélé complètement. Il s'est donné complètement à nous. Il ne veut pas échanger quelque chose avec son amour. Son amour n'est pas conditionné. C'est l'odeur de Dieu. C'est ça l'amour. En fait, c'est ainsi qu'il nous aime unilatéralement. Quel est le fondement de l'amour? Alors, quel est le fondement des commandements de Dieu? C'est l'amour. Les commandements de Dieu sont redoutables, mais ces commandements sont basés sur l'amour. Lorsqu'on parle de l'amour, on peut imaginer d'abord l'amour entre hommes et femmes. C'est un malentendu. Notre Dieu nous a donné, il s'est donné complètement à nous pour que nous devenions comme lui. Notre Dieu vit dans les cieux éternellement. Il veut que nous entrions aussi dans les cieux pour vivre éternellement comme lui. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si ce n'est pas l'amour, je suis des bronzes qui résonnent ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même de la foi jusqu'à transporter des montagnes, si ce n'est pas l'amour, je ne suis rien. Alors celui qui n'a pas l'amour n'est rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, pour être sacrifié, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Il faut que nous comprenions correctement cette parole. L'amour, alors là, maintenant donc ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. C'est ce qui est dit dans le dernier verset. La foi, lorsque nous avons été en dehors de Jésus, nous ne connaissions point la foi, nous n'avions que les convictions, mais en fait, lorsque nous sommes convertis et nous sommes entrés dans l'Église, nous avons pu obtenir la foi. Nous avons tous la foi de Dieu. Alors nous avons ainsi la foi. Certains prient beaucoup selon la foi, certains autres. Font des choses remarquables. Selon la foi, par exemple, ils prophétisent et ils obtiennent des connaissances et des dons aussi. C'est ainsi qu'ils font de grandes choses avec la foi. C'est pourquoi cette foi-là est très importante. Ceux qui n'ont pas la foi ne peuvent pas mener la vie de la foi. Parce que les païens vivent selon leurs propres convictions, mais eux, ils ne peuvent pas posséder la foi venant de Dieu. Mais lorsque nous venons à l'Église, Nous transcendons la conviction et nous obtenons une foi qui est plus puissante que la conviction. Certains possèdent une grande foi. Ils sont très zélés. Ils pratiquent les signes et les prodiges avec la foi. Ils opèrent une grande puissance selon la foi. Mais ceux qui n'ont pas la foi ne peuvent pas faire de telles choses. Avant que je croie en Jésus, je n'avais pas de puissance. Mais lorsque, après ma conversion, j'ai obtenu la foi et la puissance. Alors, je me suis rendu compte que la foi nous apporte de très grandes choses et puissantes. Donc, la foi, alors, si on a la foi, et est-ce que ça suffit? Non, ça ne suffit pas du tout. La foi, si on parle, lorsque l'on parle de la foi, alors on peut tomber dans la foi intéressée. C'est-à-dire qu'on veut obtenir la bénédiction en croyant en Jésus, par exemple, bénis ma famille, bénis mon mari, bénis mes enfants, fais-nous prospérer. C'est ainsi qu'on demande la bénédiction à Dieu. C'est ça la foi intéressée. Alors là, beaucoup de théologiens sont préoccupés par cette question parce que c'est la foi qui nous permet de triompher du monde. C'est la foi qui nous fait vivre. Ça, c'est clair. Mais même si on dit « je crois », même si on demande aux autres de croire, mais alors c'est ainsi que la foi s'impose fortement. Mais si on se concentre trop sur la foi, et on peut se concentrer uniquement sur la bénédiction. Alors, c'est pourquoi beaucoup de fidèles veulent que je prie pour eux, pour qu'ils soient bénis. Certains disent, alors j'ai acheté une voiture, bénis-la, ou bien j'ai fait un plat, bénis-le. C'est ainsi qu'ils aspirent à être bénis. C'est ainsi qu'ils aspirent à être bénis. Certains veulent obtenir beaucoup de puissance. Mais Jésus, pendant 33 ans, Jésus a vécu dans ce monde. Alors, ses disciples étaient âgés à partir de 20 ans jusqu'aux 30 ans. Alors, les disciples de Jésus ont chassé les démons, mais les démons ne sont pas partis. Et alors, on a amené ces démoniaques à Jésus. Alors, la mère d'un démoniaque a dit, les disciples ont chassé les démons, mais ils n'ont pas réussi. Alors, Jésus a chassé les démons qui étaient dans ce démoniaque. Et alors, ses disciples lui ont demandé pourquoi on ne peut pas chasser les démons. Alors, Jésus a dit, la prière et le jeûne nous permettent de chasser les démons. Donc, sans prier et sans jeûner, on ne peut pas faire ce genre de choses. C'est pourquoi Jésus aussi a jeûné, même s'il était le Fils de Dieu, lorsqu'il était dans la chair, il a prié. Et il a prié en tout temps, c'est ce qui est dit dans la Bible. Alors, il a dit au tombeau de Lazare, « Merci parce que tu m'exauces toujours. » C'est ce qu'il a dit à Dieu le Père. Alors, nous aussi, nous prions. Moi aussi, à partir de 20 ans, j'ai opéré beaucoup de signes et de prodiges. Alors, j'ai opéré de grandes puissances. de ma jeunesse, après ma conversion, parce que j'ai beaucoup prié. Alors, je ne sais pas si vous avez travaillé à la campagne. Alors, il faut qu'on mette sur le dos un instrument très lourd. À ce moment-là, on a beaucoup de mal au cou. Donc, lorsque j'ai mis sur le dos cet outil, alors j'avais très mal au cou. J'ai prié beaucoup. Lorsque j'étais jeune, je suis allée à la montagne pour prier toute la nuit. J'ai fait la veillée aussi. Alors, si j'ai commencé à prier, j'ai prié pendant 12 heures, 3 heures, même pendant 8 heures. Et alors, à ce moment-là, alors, j'ai prié jusqu'à ce que mes entrailles soient coupées et souffrent. J'ai poussé des cris. Alors, ma voix était presque... Et alors, c'est ainsi que j'ai investi toutes mes forces dans la prière. À ce moment-là, j'ai pu écouter aux dons du Saint-Esprit qui sont mentionnés dans la Bible. Mais maintenant, je suis une personne très âgée. C'est pourquoi je souffre énormément. Alors, l'apôtre Paul et Pierre qui ont opéré beaucoup de puissance, eux, en fait, ils ont cessé de le faire parce que c'est la prière qui nous permet d'opérer la puissance. Donc, si on ne prie pas, on ne peut pas manifester la puissance. Mais alors, selon mes expériences, si on n'est pas jeune, on ne peut pas prier de toute notre force. Donc moi, alors si vous êtes personne âgée, vous ne pouvez pas opérer de grande puissance parce que vous ne pouvez pas prier ardemment parce que c'est souffrant pour les personnes âgées. Alors ce qui nous importe, c'est quoi? C'est prier ardemment et sincèrement de toutes nos forces. Lorsque nous prions ardemment, nous nous concentrons complètement sur la prière. On ne pense pas à autre chose. Mais aujourd'hui, lorsqu'on prie... Alors, voilà, on dit Dieu le Père. Ensuite, on regarde les autres qui sont autour de nous. C'est ainsi qu'on ne peut pas se concentrer sur la prière. Alors, moi, je suis une personne très âgée. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas prier. Je ne peux pas prier de toutes mes forces. Je ne peux pas prier puissamment. Parce que c'est difficile de le faire en tant que personne âgée, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas manifester beaucoup de signes, contrairement au passé. Mais par exemple, voilà, je peux guérir les malades, parce que c'est la base de la foi. Mais lorsque j'étais jeune, j'ai fait voir les aveugles, j'ai fait marcher les boiteux. Mais maintenant, je ne peux pas le faire parce que je ne peux pas prier suffisamment aujourd'hui à cause de mon âge très avancé. Donc, si vous êtes jeune, priez. Alors, lorsque j'étais... Je me souviens, je me rappelle de certains nombres de jeunes qui ont témoigné de leur foi et de la puissance qu'ils ont opérée auprès de malades. Donc, c'est ça la mission des jeunes. Donc, priez beaucoup, hein, concentrez-vous sur la prière si vous êtes jeune. Priez jusqu'à ce que vos entrailles soient coupées. Alors, lorsqu'on a travaillé à la campagne, on a mis sur le dos un outil très lourd. Alors, on a beaucoup de mal au cou, mais on le fait jusqu'au bout. De la même manière, il faut prier jusqu'au bout. Et alors, sois zélé pour la prière. Si on le fait, à ce moment-là, on peut manifester beaucoup de signes et de prodiges. Alors pourquoi vous ne pouvez pas manifester des puissances et des signes contrairement au passé? Sans la prière, telles choses ne peuvent pas se produire. Alors, c'est ce qui est dans la Bible, donc il faut qu'on investisse beaucoup de force dans la prière. Moi, je suis une personne très âgée, alors c'est pourquoi je ne peux pas manger beaucoup. Moi, je mange trois fois par jour, mais je ne mange qu'un bol de riz. Donc, avec un seul bol de riz, je mange. C'est ça mon repas quotidien. Alors, je suis très faible, je n'ai pas de force. Donc, si quelqu'un me touche, je ne peux que tomber. C'est pourquoi je ne peux pas jeûner aujourd'hui. Mais lorsque j'étais jeune, j'ai opéré beaucoup de puissance parce que j'ai jeûné, j'ai fait la veillée 8 fois par semaine. Alors, et j'ai jeûné pendant 10 jours par mois. Alors, j'ai jeûné même pendant 40 jours. Lorsque je jeûnais, je priais aussi. C'est pourquoi. Alors, le mois de janvier, c'est le mois où on jeûne. C'est ce qui est fixé par l'Église. Alors, à ce jour-là, j'ai jeûné aussi. Mais maintenant, je ne peux pas jeûner parce que je suis très âgée. Mais alors, la puissance vient de la prière et du jeûne. C'est ce qui est dit dans la Bible. Alors, sans jeûner, on ne peut pas manifester de grands signes que j'avais manifestés par le passé. Il faut qu'on fasse des efforts et il faut qu'on prie jusqu'à ce que nos entrailles soient coupées parce que Jésus nous a dit « Appliquez-vous à la prière ». Alors, Jésus a présenté ses prières avec beaucoup de sueur, beaucoup de larmes. À ce moment-là, les anges le soutenaient. On peut aussi faire la même expérience. Alors, vous les jeunes, si vous priez de toutes vos forces, alors, jusqu'à ce que les sueurs deviennent une goutte de sang. Alors, si vous faites un tel effort pour la prière, vous pourrez manifester de grands signes, de grands prodiges. C'est ce que j'attends de vous. C'est ce que j'attends de vous, vous les jeunes. Alors, vous, si vous êtes jeune, lorsque vous jeûnez, vous pouvez vous relever très rapidement. Alors, même si vous avez couru, vous pouvez aussi vous relever très, très rapidement parce que vous êtes en bonne santé, vous êtes très sain. Donc, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est la prière. Notre Église a une grande mission. Il faut que nous prions ardemment pour pouvoir remplir cette mission. Voilà, c'est ça le secret de la manifestation de la puissance. On peut transporter même des montagnes si nous prions. Maintenant, je ne peux pas prier très ardemment à cause de mon âge très avancé. Alors moi, j'ai prié et j'ai opéré la puissance parce qu'il y a eu la promesse de Jésus. Alors j'y ai cru. Alors selon la foi, je me suis comporté. Alors j'ai manifesté un signe de tout poisson et de 5 pains. Et alors qu'est-ce que Jésus a fait pendant 5 pains? Jésus a rassasié environ 10 000 personnes. Et ensuite, après avoir rassasié 10 000 personnes, il restait encore 12 paniers de morceaux de pain. Cela signifie que la puissance de Dieu n'a pas de limite. Il faut que nous ayons donc une telle foi. Et avec cette foi-là, j'ai mené le pastorat. J'ai mené le pastorat avec cette foi-là. Alors, j'ai acheté un grand terrain et alors j'ai construit des stations de parking, j'ai construit des temples de Dieu. Mais en fait, vous pensez que avec les offrandes que vous avez données, nous avons acheté des terrains, nous avons construit des centres de culte. Mais c'est pas ça en fait. Si nous avons la foi, si nous n'avons que la foi, nous pouvons nous dévier. Quelqu'un a dit à Jésus, j'ai opéré de grande puissance, j'ai prophétisé, mais Jésus lui a dit, je ne te connais point, les gens iniques, retirez-vous de moi. C'est ce que Jésus a dit à cette personne. Alors, ceux qui sont uniques ne peuvent qu'être tués par Jésus. Même si on parle en langue, même si on opère beaucoup de puissance. Mais alors, si on n'a que la foi, et quel est le résultat de cette foi unilatérale? C'est en fait, on n'aime que être béni. Par exemple, on veut prospérer dans le monde. Et on veut prospérer dans nos affaires et on veut faire prospérer nos enfants, notre mari aussi. Donc, c'est ainsi que notre foi est déviée. Si on ne prie pas, il faut absolument avoir la foi. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Hein? Donc, si on a la foi, on peut plaire à Dieu. Mais il faut aussi l'espérance en dehors de la foi. Vous dites, j'ai la foi, mais votre foi n'est pas très parfaite. Parce que on devient rapidement paresseux et on tombe en tentation très rapidement parce qu'on n'a que la foi, on n'a pas d'espérance. Donc si on a la foi, il faut aussi l'espérance. C'est ce qu'a dit l'apôtre Paul. Paul a dit, moi j'ai abandonné tout ce qui est utile à ma chair, comme des excréments, et je vise seulement mon objectif et j'avance. Je n'ai pas encore obtenu comment l'atteinte de mon objectif, et alors je n'ai pas encore réalisé mon objectif, mais pour réaliser cet objectif, j'avance vers le but de la résurrection. Voilà, vous et moi, alors nous avons donc l'objectif de la résurrection, parce que sans la résurrection, on ne peut pas entrer dans les cieux, sans la résurrection, on ne peut pas voir Dieu. Et sans la résurrection, on ne peut pas obtenir la vie éternelle que nous avons attendue. Voilà, c'est ça l'importance de la résurrection, la première résurrection. Si vous participez à la première résurrection, vous pouvez entrer dans le paradis. Mais si vous participez à la seconde résurrection, vous ne pouvez qu'être jugé ou vous allez entrer dans l'enfer. Il faut que nous soyons donc remplis de l'espérance en la première résurrection. Moi, mon âge est très avancé. C'est pourquoi il est vraiment difficile de prêcher le sermon. Je mange peu. C'est pourquoi je n'ai pas de force. Alors moi, je préfère l'église ou je préfère mon fils? Quelle est ma préférence? Moi, j'aime l'église. Alors, il faut aussi faire renaître le mouvement spirituel qui avait été lancé par mon église, par cette église. Dans ce but, j'ai abandonné mon fils. Alors, c'est pourquoi j'ai décidé de limoger mon fils. Je pense que vous comprenez. Alors, j'ai aimé l'Église plus que mon fils, parce que l'Église a été rachetée par Dieu. Alors, cette Église a été rachetée par le sang de Dieu. Alors, moi, je ne veux rien, je ne crains rien. Alors, je ne sais pas quand je mourrai. C'est pourquoi Je vis chaque jour, alors je n'ai pas de demain pour moi dans mon dictionnaire. Je ne peux pas faire un rendez-vous avec les gens parce que moi, je peux ne pas tenir ce rendez-vous, cette promesse. Parce que mon âge est très avancé, je ne sais pas quand je mourrai. Lorsque je quitte ce monde, je n'aurai aucun regret. Alors si je pense à ma vie terrestre dans le paradis, ce paradis n'est pas un vrai paradis. Mais dans le paradis, qu'est-ce que c'est? Alors un jour au paradis, ce sera 1000 ans dans le monde, et 1000 ans au paradis, ce sera un jour au paradis. Alors à ce moment-là, on va accueillir notre Seigneur Jésus avec cette notion de temps dans le paradis. Alors si je m'inquiète de l'avenir de mes enfants, et dans le paradis, ce n'est pas le paradis. Alors si je quitte le monde, j'entrerai dans le paradis où je n'aurai aucun regret, aucune inquiétude. Alors je vais me reposer dans le paradis et alors je vais rencontrer le Seigneur Jésus dans l'air. À ce moment-là, mon corps sera transformé en corps. La chair ne peut pas hériter du royaume des cieux. Seule la parole de Dieu et le sang de Jésus et le Saint-Esprit nous permettent, nous consolent, nous soutiennent. On ne peut pas voir nos âmes, nos esprits, mais nos âmes, nos esprits seront transformés en clin d'œil. Et seront transformés en notre corps. Alors ce corps aura des os et la chair lors de la résurrection. Donc, lors de la résurrection, il y aura une transformation de nos esprits. En fait, le corps que nous possédons ne peut pas hériter du royaume des cieux, même si on fait beaucoup d'exercices, même si on mange beaucoup de choses saines et nutritieuses. Et ce corps va retourner au sol. Seuls nos âmes, nos esprits qui ont dépendu du sang de Jésus et du Saint-Esprit seront transformés en un corps et verront le Seigneur dans l'air. Et 1000 ans après, tous ces esprits seront amenés dans le royaume des cieux et vivront éternellement avec Dieu le Père. C'est ça mon rêve. C'est ça mon espérance. Alors, il faut que la foi contient l'espérance. C'est pourquoi il nous a donné des ministères, des charges. Il nous a donné des charges, non pas pour que nous puissions prospérer dans le monde. Ce n'est pas pour la prospérité terrestre. Dieu nous a donné des charges. Les charges confiées par Dieu nous permettent d'avoir l'espérance. Alors, si nous accomplissons bien ces charges, nous serons récompensés dans les cieux. C'est pourquoi il est dit dans Hébreux 11, si on n'a pas la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Si vous croyez en Dieu, il faut que vous croyions que Dieu va nous récompenser. Il faut que nous ayons une espérance. Alors, si nous sommes anciens, si nous sommes diacres, ce sont les charges qui nous permettent d'être récompensés dans les cieux. La Bible parle de parabole de talents. Il y a eu quelqu'un qui a obtenu 5 talents, un autre qui a obtenu 2 talents et un autre qui a obtenu un seul talent. Alors, si nous sommes enseignants, si nous sommes membres de la chorale, et nous le faisons parce que nous avons une espérance céleste. Alors, c'est pour accomplir ces charges, il faut se sacrifier, il faut investir notre temps et il faut engager nos efforts. Mais dans ces charges, il y a une espérance céleste. Donc, il faut qu'on y consacre beaucoup de choses pour être récompensé dans les cieux. C'est ce qu'on doit attendre. Alors, lorsque notre berger apparaît, nous pourrons obtenir la couronne céleste qui ne fléchisse pas. Alors, il faut que nous fassions beaucoup d'efforts pour pouvoir y arriver. Donc, Si vous avez une charge au sein de l'Église, il faut que vous y soyez fidèles jusqu'au bout, même si vous êtes ancien, même si vous êtes diacre, diacre consacré. Avant de devenir diacre, vous avez été très fidèle, vous avez été très fiable. Mais après être devenu diacre, vous ne pouvez plus venir à l'Église. Alors, vous avez été complètement changé. Avec cette attitude, vous ne pouvez pas être récompensé. Par exemple, quelqu'un a beaucoup d'honneur, beaucoup d'argent dans ce monde. C'est pourquoi il est devenu ancien ou diacre consacré à l'Église. Mais lui, il n'aura pas de récompense céleste. Vous avez beaucoup de foi. C'est pourquoi vous chassez les démons pour opérer la puissance. Mais Dieu a dit, je ne te connais point. Alors, retirez-vous de moi. Dieu nous a donné des charges. Avec ces charges-là, nous pouvons avoir une espérance céleste. Mais si on abandonne cette espérance et si on veut prospérer uniquement dans le monde, on ne pourra pas être récompensé dans les cieux. Ce que nous avons à voir, nous devons avoir, c'est l'espérance. Alors moi, je mène mon pastorat avec cette espérance. Moi, je n'ai pas demain. Je n'ai qu'aujourd'hui, à cause de mon âge avancé. Alors, je n'ai aucune ambition pour ce monde. Il est dit dans l'Apocalypse, chapitre 20, en tout, les menteurs ne pourront pas entrer dans le royaume des cieux. C'est ce qui est dit dans l'Apocalypse, chapitre 20, en tout. Alors les menteurs ou ceux qui inventent le mensonge ne pourront pas entrer dans le royaume des cieux selon l'Apocalypse. C'est pourquoi j'aime mon âme. J'aime vraiment mon âme. Même si j'aime beaucoup ma famille, si je dois entrer dans l'enfer, mon âme pour ma famille ne servira de rien. C'est pourquoi j'agis pour mon âme. Je ne mens pas. Et moi, je suis à 100% la Bible. Donc, nous avons besoin de l'espérance. Moi, je n'ai pas d'ambition pour ce monde. Alors, moi, je regrette certaines choses. Mais moi, j'ai besoin vraiment de l'espérance céleste. Mais l'espérance, est-ce que ça suffit? La réponse est non. Qu'est-ce que la qualité et la forme de l'espérance? Il faut que nous ayons l'amour. C'est pourquoi, à la semaine dernière, j'ai fait un serment. Alors, il est dit, j'ai parlé de l'Antichrist et j'ai parlé aussi de l'hérésie. Qu'est-ce que l'hérésie? Les hérésies ne renient pas Jésus. Par le passé, les hérésies, eux, en fait, ils disaient que ce sont eux-mêmes qui sont Jésus. Mais les hérésies d'aujourd'hui, eux, en fait, ils disent c'est moi qui est le Christ. Mais en fait, ils ne renient pas la Bible, mais simplement ils affirment que ce sont eux-mêmes qui sont mentionnés dans la Bible. C'est ça l'hérésie. Il ne renie pas Jésus, il ne renie pas la Bible. Alors, ils disent, Jésus dont parle la Bible, c'est lui-même. Alors, c'est Jésus qui s'est manifesté. C'est ce qu'ils disent. Mais l'Antichrist, c'est quoi? Alors, 1 Jean parle de l'amour jusqu'au 5-6e chapitre. De ce livre, on parle de l'amour. Il ne faut pas qu'on se fie aveuglement à nos esprits, mais il faut faire un discernement des esprits. Est-ce que notre esprit appartient à Dieu ou pas? Est-ce que nos esprits appartiennent à Dieu ou au monde? Et c'est ce que nous devons examiner. Dieu a sauvé nos esprits par son sang précieux. Alors, il faut qu'on soit derrière Dieu, non pas derrière quelqu'un d'autre. Donc, Si nous renions la venue de Jésus en chair, nous sommes ennemis et adversaires de Jésus qui l'ont tué. Jésus est venu en chair dans le monde, il a goûté à la mort. Hébreux chapitre 2, verset 8. Pourquoi il est mort? Il est venu pour mourir afin de verser son sang. Il est venu pour nous racheter en versant son sang. Parce que sans l'effusion de sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Il n'y a pas l'obtention du salut. Par la loi, on a été condamné. Alors, Jésus s'est chargé de nos péchés. Il a accompli toutes les exigences de la loi à notre place. Dans le passé, notre destinée, c'était l'enfer. Mais par le baptême, on a enterré notre passé. Et on a enterré la loi aussi. Ensuite, on s'est unis à Jésus. On s'est unis à Jésus lors du baptême. C'est pourquoi on n'est plus pécheur. Avant d'entrer en Jésus, lorsque nous avons demeuré dans la loi, nous avons été pécheurs. Lorsque les Israélites étaient dans la loi, ils ont invoqué le nom de Dieu, mais ils ne pouvaient pas. Ils étaient seulement pécheurs. C'est pourquoi ils devaient se repentir. Mais nous, quant à nous, nous nous sommes unis à Jésus. Et alors, Jésus est le Fils de Dieu. C'est ainsi que Jésus a été reconnu en tant que le Fils de Dieu. Et nous aussi, nous sommes reconnus comme enfants de Dieu. Et nous avons été justifiés. Alors moi, je me suis fait baptiser et je suis... j'ai obtenu la justification. Donc, alors Jésus est sorti du sein de Dieu le Père et il est mort à notre faveur. Nous avons ainsi bénéficié de l'effet de la mort de Jésus. Alors, nous ne sommes plus condamnés parce que nous avons été parfaitement pardonnés. Mais si on condamne les autres, on appartient à l'Antichrist. Alors, si on ne comprend pas bien cette partie-là, et ce serait difficile, ce serait dur pour nous, il faut aimer. L'amour couvre beaucoup de péchés. L'amour couvre des péchés. Toutes sortes de péchés. Qu'est-ce que l'amour? L'amour est patient. L'amour est patient et serviable. Moi, à partir des années 60, j'ai mis une pierre dans ma bouche. Mon surnom était Simon. Alors, qu'est-ce qu'on me dise? Je devais faire mon travail. Alors, même si je vois quelque chose, je n'en parle pas. C'est pourquoi, mon surnom était Simon. Simon signifie je regarde, mais je ne parle pas. Parce que l'amour est patient. C'est ainsi que je pratique l'amour. Et puis ensuite, l'amour est serviable. L'amour est doux. Et il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. J'ai lu un livre. Selon ce livre, j'ai vu un général qui a remporté une grande victoire lors d'une guerre. Alors, il a été grandement récompensé par son roi. Ensuite, il a amené ses soldats subordonnés à un endroit, à une ferme très ancienne. C'était un grenier très ancien. Alors, On a vu ce qui est dedans. Alors, ce général a beaucoup pleuré dans ce grenier. Ensuite, il a pleuré. Et il en est sorti. Alors, ses soldats, ses subordonnés lui ont demandé « Qu'est-ce que vous avez demandé pendant votre prière ?» Et ce général a dit « Je suis devenu un serviteur de cette maison. » Alors, j'ai dormi dans ce grenier. Moi, maintenant, j'ai obtenu beaucoup d'honneur. Mais moi, mon cœur est toujours là, dans ce grenier où j'avais dormi en tant qu'esclave. Donc, chaque fois qu'il obtient une grande récompense, il va dans ce grenier pour s'examiner lui-même. Moi aussi, je suis devenu président d'une grande université, je suis devenu pasteur d'une grande église. Mais malgré cela, je parle toujours de mon passé. Moi, lorsque j'étais un enfant, mais j'étais serviteur d'une maison. Alors, c'était quelque chose de très honteux. Alors moi, je ne cache pas mon passé. J'en parle tout le temps. Je le révèle. C'est pour moi-même. Je le fais parce qu'il ne faut pas que je devienne orgueilleux. Alors, où que je sois, alors je ne veux pas m'en vanter. Alors, je le fais sincèrement. C'est pour mon âme. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Moi, je suis entré dans l'église les mains vides. C'est moi qui a commencé à évangéliser. Alors, j'ai obtenu d'une grande nombre de fidèles et j'ai construit cette église. Alors, Dieu m'a choisi et il a appelé beaucoup de personnes autour de moi et se tenir sur ce pupitre, c'est mon droit. Alors, certains disent, pasteur, c'est pas la peine d'écrire, ou bien c'est pas la peine de prêcher un tel sermon. Il faut pas que vous interveniez dans mes propres affaires. C'est quelque chose d'impoli. Donc, il faut faire un discernement. Il ne faut pas faire quelque chose d'impoli. Il ne faut pas se comporter de manière impolie. Ensuite, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Alors, quelle est la vie de la mère? Elle a eu beaucoup de rêves lorsqu'elle était jeune. Alors, elle a eu beaucoup de rêves, avec l'âge, il perd ses rêves. Ensuite, mais en fait, elle devient toute petite en devenant un membre de la famille. Elle se sacrifie énormément pour ses enfants, pour sa famille, parce que elle aime ses enfants et sa famille. Donc, il faut que nous ayons l'amour. L'amour est très important. Il y a la foi, l'espérance, l'amour. Mais dans l'Église, il faut s'aimer les uns les autres. Au sein de l'Église, il y a beaucoup de fonctions, en fait. Mais nous sommes très différents. On a de différentes compétences. Les différents talents, on a différentes personnalités. Il faut donc se respecter les uns les autres. L'Église est le corps de Jésus. L'Église constitue les membres du corps de Jésus. Donc, je suis aussi membre de Jésus et vous l'êtes aussi. Donc, nous sommes tous membres de Jésus. Alors, il faut nous encourager les uns les autres. Il faut nous aimer les uns les autres. Il ne faut pas abolir la réunion. Il faut qu'on se réunisse. Et ensuite, il faut s'encourager. Il faut s'aimer les uns les autres. Et c'est ce que nous devons faire, Hébreux chapitre 10, verset 25. Parce que nous constituons tous le corps de Jésus, c'est pourquoi il faut aimer l'Église. C'est pour nous-mêmes. Mais vous dites, il n'y a pas d'amour au sein de l'Église, mais c'est vous-même qui devez commencer à aimer les autres. Alors, si quelqu'un n'aime pas, ça n'a aucun rapport avec nous-mêmes. C'est nous qui devons commencer à aimer. Il ne faut pas mettre en péril l'Église qui a été bâtie par Jésus. Il faut l'amour au sein de l'Église. Il ne faut pas être jaloux des autres. Il ne faut pas haïr les autres. Il faut que nous ayons l'amour. Il faut la foi. Il faut aussi l'espérance. Et en plus de cela, il faut l'amour. Et seulement par le Saint-Esprit, on peut aimer. Alors, l'amour, c'est l'opération du Saint-Esprit. Donc, Dieu nous a donné le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit, on est né de nouveau. Par le Saint-Esprit, nous devons donc travailler, nous devons servir l'Église par le Saint-Esprit. Quel est le premier fruit de l'amour? C'est l'amour. Donc, c'est l'amour qui est le fleur. Ensuite, il faut aussi la paix, la patience, la miséricorde, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Tout ceci est les fruits de l'amour. Ce sont les fruits du Saint-Esprit. Donc, les fruits du Saint-Esprit, c'est l'amour. Il faut faire travailler dans le Saint-Esprit qui est en nous et il faut faire en sorte que le Saint-Esprit puisse fleurir en nous selon sa volonté. C'est ce que nous devons faire. En ce faisant, nous devons accomplir l'amour. Il y a aussi la foi, l'espérance, mais il faut absolument l'amour, même si on a beaucoup de foi, il ne faut pas transcender l'amour. Même si on a beaucoup d'espérance, il ne faut pas transcender l'amour. Et puis l'amour pour l'Église doit être éternel. Qu'est-ce que c'est l'amour? Quel est le degré de l'amour que nous devons avoir? Il faut aimer de nous tout notre cœur, toute notre force, de toute notre nature et de toute notre vie. Il faut aimer ainsi notre Seigneur Jésus et il faut aussi nos prochains de tout notre cœur, de notre volonté, de notre nature, de toute notre force et toute notre vie. Voilà le nouveau commandement de Jésus. Alors si nous ne sommes pas dans ce nouveau commandement, et c'est parce que nous sommes encore sous le premier commandement, nous ne pouvons pas aimer donc les autres. Alors, nous sommes donc sous le premier commandement, c'est l'avertissement déçu. Donc, aimons vraiment, prenez le point, aime l'Église. Il y a, c'est pas la peine d'adopter une attitude négative pour l'Église. Mon âme aime l'Église. Mon âme aime l'Église. Mon âme aime l'Église. Levez-vous. Alors, prions pour pouvoir aimer l'Église. Alors, pendons-nous parce que nous n'avons pas aimé l'Église. La Bible dit, si vous menteurs et si vous inventez le mensonge, vous serez en dehors de la porte. Donc, alors, vous mentez à vos amis, aux autres. Et alors, et vous mentez aussi toujours à Dieu. Vous dites, je vais telle ou telle chose, mais ensuite, on ne le fait pas. C'est ça le mensonge. Alors, il ne faut pas mentir à Dieu. Priez maintenant et ne mentez pas à Dieu. Comment pourrais-je me dédier à Dieu? Comment pourrais-je aimer Dieu? Alors, le temps est venu. Alors, donc, il ne faut pas mentir lorsque vous priez. Il ne faut pas mentir aux autres. Il ne faut pas mentir à vos familles. Même si vous ne mentez pas aux autres, vous mentez toujours à Dieu lorsque vous priez. Alors, si vous êtes menteur, si vous inventez le mensonge, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Si vous mentez aux autres, vous pouvez être pardonné infiniment, mais si vous mentez à Dieu, vous ne pouvez pas être pardonné. Prions donc, prions pour pouvoir